Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 3 octobre 89.
Question, n'y a-t-il pas une expérience interne qui ne suppose aucune expérience externe? L'expérience que nous avons de la durée, nous l'avons indépendamment de tous nos sens, je ne crois pas. Je crois que l'expérience de la durée, nous l'avons à partir de l'expérience du temps. Il y a des cours qui durent très longtemps. Ils ont exactement le même temps. Il y a des oraisons qui durent très longtemps. Et pourtant, elles ont exactement le même temps. La durée interne dépend de nos expériences. On s'éveille par l'expérience. Évidemment, il faudrait vous rappeler un premier moment de votre expérience quand on vous a montré quelque chose que vous avez touché. Moi, ça me frappe beaucoup de voir combien un enfant touche, regarde. Ne ferme pas les yeux en premier lieu. Évidemment, je ne me rappelle pas de ma première expérience de la durée, vous non plus. Prenez l'expérience actuelle de la durée. Bon, puisque la philosophie n'est pas une réminiscence, type Platon, la philosophie prend l'expérience actuelle que j'ai de ma vie. Alors, l'expérience actuelle que j'ai de ma vie, de la durée est toujours relié au temps. Et le temps à l'expérience externe. Il y a une référence au temps dans la durée. C'est pas une expérience première. C'est ça que je veux dire, vous voyez, c'est que toute expérience interne n'est jamais première. Le monde extérieur par les sensations externes. Pour ça, il faudrait analyser. C'est la critique, ça. Hein? Ça relève directement de la critique. Il faudrait analyser ce qu'est l'expérience externe et interne. L'expérience interne s'appuie sur notre imagination et notre intelligence et notre affectivité. Or, l'imagination, point de vue critique, n'est jamais une connaissance première. Toutes nos imaginations présupposent des expériences externes. Une connaissance seconde. Et notre intelligence commence avec le jugement d'existence. Et le jugement d'existence est toujours lié à une expérience externe. Pouvez-vous nous dire à propos des remarques de vocabulaire, ce qu'est l'anthropologie et sa place par rapport à la philosophie. Oui, l'anthropologie est née avec Kant. Autrement dit, c'est Kant qui le premier s'est mis à parler d'anthropologie. Aristote n'en parle pas, Platon non plus, les pères de l'Église non plus, Saint Thomas non plus, Descartes non plus, il faut arriver à Kant. Donc c'est tout à fait récent pour la philosophie. Et Kant parle de l'anthropologie parce qu'il rejette la métaphysique. premier Kant et un second Kant. Il y a un premier Kant qui suit la métaphysique de Wolff. Il y a un second Kant qui la nie. Et c'est le second Kant qu'on parle tout le temps, c'est pas ? Kant n'a jamais fait d'allusion à sa première position. C'est très curieux. Moi, je crois pas. Il a simplement... Saint-Augustin a les rétractations. Kant ne fait pas des rétractations. En disant, au début de mon enseignement, voilà ce que j'ai fait. Parce que Kant est essentiellement professeur. C'est le patron de tous les professeurs, Kant. C'est pour ça qu'ils sont si ennuyeux. Parce que c'est le patron de tous les professeurs. Il avait une vie extraordinairement bien réglée. La promenade avec le petit chien l'après-midi. C'était quelque chose de tout à fait important. Et un règlement de vie, tout le monde le dit, ça. C'était très connu pour chez Kant. Alors le premier Kant est disciple de Wolff, la métaphysique de Wolff. Et le second Kant critique. Donc quand Kant critique la métaphysique, il ne critique pas du tout la métaphysique de saint Thomas, c'est celle de Wolff. Et c'est ça qui est terrible, c'est que ces philosophes, au fond, ont très peu de vraie culture philosophique. À ce point de vue-là, il y a un progrès énorme avec Heidegger. Heidegger a une culture philosophique, sans qu'il connaît la philosophie grecque. Un Européen ne peut pas faire de philosophie sans connaître la philosophie grecque. C'est impossible, puisque c'est le berceau. Alors ils sont tous partisans d'une méthode qui est une méthode d'introspection au point de vue psychologique. Et ils ne regardent pas ça au point de vue philosophique. Que pour comprendre Descartes, il faut comprendre Suarez. Pour comprendre Suarez, il faut comprendre Occam et Thomas d'Aquin. Pour comprendre Thomas d'Aquin, il faut remonter au-delà des pères de l'Église, à Aristote. Pour comprendre Aristote, il faut regarder quand même un peu Platon. Et pour comprendre Platon, il faut regarder Parménide, et ainsi de suite. Oui, pour comprendre pleinement, c'est sûr. Alors, au fond, Kant refuse la métaphysique, il refuse la métaphysique de Wolff. Pourquoi ferez-vous constamment référence à la psychologie dans l'étude de la personne? Ça, nous le verrons. N'en disons pas trop. En un mot, c'est un pos. La personne. Donc on est très bon. Le pos, c'est le comment. C'est pas un principe. Dès qu'on est au niveau des principes, on est au-delà de la psychologie. Dès qu'on est au niveau du pos, on est très proche de la psychologie. Mais c'est un pos vu au-delà des principes, à partir des principes. Ça, on verra. Bon, je continue avec vous pour prendre la naissance de la philosophie première. Vous voyez, comme cette année-ci, nous ne prenons pas le point de départ de la philosophie première, je vais très vite. Je m'excuse pour ceux qui arrivent. Je ne peux pas reprendre toujours le cours. Je reprends quand même un peu pour que vous voyez. Mais si c'était la première année de la philosophie première, je ferais une petite enquête historique. Quand est née la philosophie première ? Dans notre monde occidental. Parce que je pourrais me poser la question dans l'Inde. C'est intéressant de se poser aussi la même question. Parce que la métaphysique est née aussi dans l'Inde. Il y a des philosophes de l'Inde, la métaphysique n'est pas propre à l'Europe. La métaphysique est propre à l'intelligence humaine. Tout être intelligent fait de la métaphysique. plus ou moins bien s'il l'a fait. Pourquoi? Parce que le propre de la philosophie, c'est de remonter à la source. Pic, qui n'est pas un philosophe, dit ça admirablement. Tous les hommes descendent le fleuve. Les cadavres descendent plus vite le fleuve. Ça, c'est l'ironie de Pic. Parce que si vous descendez le fleuve, vous êtes battu par les cadavres. Les gens qui vous disent, quand on demande à quelqu'un, pourquoi faites-vous ça? Ah, tout le monde le fait. Bon, les cadavres le font encore mieux. Alors ça les corrige un tout petit peu de comprendre, faire comme tout le monde, ce n'est pas un principe. C'est un laisser-aller. C'est ça qui amène à un libéralisme absolu. Faire comme tout le monde. On fait comme tout le monde. Des prélats éminents, on leur demandait pourquoi ils avaient telle ou telle tenue ecclésiastique. C'est tout le monde le fait. Et c'est très curieux, mais c'est très intéressant. Ne faites pas trop cette question, mais de temps en temps quand même. C'est intéressant. Pourquoi faites-vous ça? Je me souviens, un jeune peintre à Fribourg, qui peignait pas si mal, qui avait du talent. Puis tout d'un coup, il s'est mis à l'abstrait. Je me dis, pourquoi mettez-vous à l'abstrait? Ça m'intéressait de voir ça. Je me dis, parce que tout le monde le fait aujourd'hui. Alors, quand on dit ça, on est fichu, intellectuellement parlant. Et au point de vue artistique aussi. Parce que ça prouve qu'on a aucune personnalité. On fait comme tout le monde. Voyez, on se laisse porter par l'influence. Tout le monde fait ça. Au noviciat, évidemment, vous commencez en regardant un petit peu qu'est-ce que font les autres. Ils font comme ça, je vais faire comme ça. Bon, c'est très bien, parce que c'est le noviciat. Mais au bout d'un certain temps, vous allez vous dire, mais pourquoi ils font ça tous? Ils ont tous pris la pilule novice, homéopathique. Et alors ils arrivent vers tout ça comme ça. On se pose la question, pourquoi on fait ça? Pourquoi on allume des bougies, des cierges à l'autel pour la messe? Demandez à un enfant de cœur. Ah, oh, je sais pas, monsieur le curé le dit. Mais alors on s'appuie sur la vie. Mais, je connais quelqu'un, c'était quelqu'un qui était très éminent au point de vue liturgie, dans l'Inde, du moins qui est française, mais qui a été beaucoup là-bas. Elle me disait, on a complètement perdu le sens du symbolisme. On fait ça, on fait ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Les gestes de la main. On ne sait plus. Oui, on répète. La répétition est non philosophique. Même les répétitions de chant. C'est non philosophique. On répète. C'est nécessaire au point de vue artistique. C'est nécessaire au point de vue éducation. Un gosse, on lui dit fais ceci. Et il le fait. Et petit à petit, il comprend pourquoi il le fait. Vous voyez? Alors là, c'est très significatif. Vous voyez? C'est d'abord le corps qui fait ça. C'est d'abord la foi qui fait ça. Puis après, on se pose la question, pourquoi? Ce qui montre bien que l'expérience externe est première dans l'éducation. Les personnes qui disent, ah, quand il sera grand, il commencera à savoir s'il peut manger ou pas manger. C'est ce qu'on dit pour le baptême, vous savez. Alors il faudrait me dire, ah, vous faites ça pour l'enfant. Il ne va pas manger, il dit, ah, très bien, tu ne vas pas manger. Quand tu seras grand, tu sauras pourquoi tu veux manger. Il sera un peu trop tard. Mais il faut toucher ces choses-là, parce que c'est ça la philosophie. Hein. C'est réfléchir sur les choses sur lesquelles les gens ne réfléchissent pas. On réfléchit sur les choses tout à fait élémentaires pour arriver à comprendre ce qu'est l'homme. Pourquoi y a-t-il des refoulements? C'est parce qu'on n'a pas réfléchi sur ces choses élémentaires. La philosophie supprime tous les a priori et tous les refoulements. ça en méthode psychanalytique, mais au fond, il y a ça qui est très important en philosophie. Donc, Peggy définit la philosophie, celui qui remonte à la source. C'est une très belle définition philosophique. Comme elle n'est pas donnée par un philosophe, tout le monde la comprend. Remonter à la source. On remonte à la source. Et Peggy ajoute, parce que c'est son style, on est seul quand on remonte à la source. Et ça, c'est très juste. Vouloir remonter à la source, c'est accepter d'être seul. Et au fond, c'est ça la grandeur du philosophe, c'est qu'il accepte d'être seul. Seul pour remonter à la source. Alors vous voyez, la source, première source, fondamentale, au-delà de l'expérience, quelle est la source de l'expérience? C'est jugement d'existence. Il y a des expériences multiples. Quelle est la première expérience? L'expérience la plus fondamentale de votre vie. Quelle est l'expérience la plus fondamentale de votre vie? Le travail, je crois. D'autres disent l'amour de l'enfant pour sa mère. C'est vrai. Mais ce n'est pas la première consciente. Oui, je suis tout à fait d'accord que l'amour de l'enfant pour sa mère, c'est la première expérience non consciente. Alors, je ne peux pas commencer la philosophie par la non-conscience. Je commence la philosophie par une expérience consciente. Or, l'expérience fondamentale consciente, c'est le travail. Vous vous souvenez très bien la première fois que vous avez dû aller à l'école. C'est un drame. Aller à l'école. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi apprendre à lire? Cette bêtise d'apprendre à lire. Pourquoi apprendre à écrire? On s'amuse tellement quand on ne sait pas écrire. Alors pourquoi aller écrire? Oui, les premières expériences, c'est le travail, l'expérience consciente. Je crois même que presque l'obéissance est liée au travail. J'ose pas trop le dire, mais ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il y a aussi l'obéissance à l'égard de la nourriture. Mange ta soupe. Prends-en, première expérience. Je crois que c'est encore antérieur au travail. Donc, l'obéissance serait liée, vous voyez, à l'éducation. Ça, il y avait une étude psychologique extrêmement intéressante à faire. Parce que l'obéissance, c'est la première expérience de l'autorité. C'est la première expérience, oui. C'est quand on a obéi qu'on a compris qu'il y avait quelqu'un qui était capable de nous pousser, de nous dire, fais ceci. L'obéissance, expérimentalement, psychologiquement parlant, c'est la perte de la liberté. Première obéissance, on est venu nous prendre alors qu'on s'amusait. On s'amusait follement. On dit, non, tu dois faire ça, c'est l'heure du repas. Ben pourquoi l'heure du repas? Complètement idiot, l'heure du repas. On s'amuse. Alors vous voyez, c'est la perte de... C'est très important ça, parce que ça fait comprendre tout le freudisme. C'est la perte de la liberté. On est après, il faut qu'on obéit. Vous voyez, c'est important de voir, au point de vue philosophique, on doit réfléchir sur la première expérience. Et je comprends très bien comment, constamment, l'aspect négatif apparaît. Oui, dans l'aspect de l'obéissance, l'autorité. L'autorité, je crois, est vécue premièrement sous l'aspect négatif. Quelqu'un qui vient nous brimer. Et c'est pour ça que l'autorité est si facilement liée au pouvoir. Parce que si on n'a pas obéi, on a reçu une gifle. Première gifle que vous avez reçue. Alors, vous voyez, l'obéissance est liée à l'autorité liée au pouvoir. Parce que quand vous donnez une gifle, c'est votre pouvoir, c'est pas votre autorité. Oh non, non. C'est indigne de l'autorité de donner une gifle. L'autorité, tu dois faire ça. Tu ne le fais pas, eh bien tu verras. Tu chez le gendarme, le pouvoir l'augmente sur l'autorité. Oui, parce qu'il a un gros pouvoir, il peut vous donner des amendes. Et plus il peut donner d'amendes lourdes, plus son pouvoir augmente. Alors, réfléchissez bien, la première expérience, le travail, consciente. Une expérience est consciente. Le travail. Puis l'amour. Puis la coopération. Oui, trois grandes expériences fondamentales. Puis alors, déjà après, ou beaucoup plus tard, cette expérience de tout coule, pandareille, tout coule, tout change, le devenir. Mais c'est déjà l'expérience du temps et de la durée, ça. Pour pouvoir dire que tout coule, il faut que vous duriez. Et vous voyez que les autres choses passent. Le torrent qui coule, et vous qui êtes au bord du torrent, et vous ne coulez pas. Parce que si vous couliez avec le torrent, vous ne diriez pas que le torrent coule. Donc l'expérience du devenir présuppose une expérience de ce qui est. C'est très curieux, ça. Ce qui demeure, ce qui dure. Alors vous avez l'expérience du devenir, puis l'expérience de celui qui se meut. Puis enfin, après avoir vu ces cinq expériences, vous voulez dire quelque chose de commun dans toutes ces expériences. Ceci est. Vous mettez en lumière ce qu'il y a de commun dans la diversité des expériences. Et c'est à cause de ça, vous voyez, que Maritain parle de l'intuition de l'être. Que Raïssa parle de l'intuition de l'être. Puisque Raïssa disait qu'elle avait eu l'intuition de l'être quand elle avait regardé le petit chat. L'intuition qu'il y a par l'être quelque chose de commun à tout. Ceci est. La vache existe. J'existe. Alors, je vois que au-delà de la diversité d'expériences, il y a l'intelligence présente dans l'expérience. Et donc, l'expérience humaine implique mon intelligence s'éveille dans l'expérience. Et elle s'éveille dans l'expérience et elle s'explicite, elle s'actue en disant « ceci est ». Ce n'est pas mes sensations qui disent « ceci est ». Mes sensations disent « cette table est froide ». Cette table, ça résiste un peu. Elle est un mur pour moi. Est-elle solide ? Je vais mettre 100 kilos dessus. Mais elle va s'effondrer. Oui. C'est les sensations qui portent sur les qualités. C'est comme la vision, je la vois, elle est blanche. Pas encore trop sale, ça va. Allez, donc ça c'est les sensations. Et au-delà des sensations, j'ai dit ceci. Il faut bien être attentif à ça. Quand vous prenez un bol de café, il est chaud. Mais de temps en temps, il est froid. Même quand il est dans un thermos. Vous prenez du café dans le thermos et puis il est froid. Vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça peut arriver, ça peut arriver. Et à ce moment-là, c'est une drôle d'expérience. Vous voyez ? Et l'expérience porte sur le chaud ou le froid. Tout de suite. Mais vous ne posez pas la question. Mais est-ce qu'il existe ce café? Oui. Ça, c'est pas du tout l'expérience. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que c'est une méta-expérience. C'est au-delà de l'expérience. Oui. La philosophie première commence à partir d'une méta-expérience. Je souligne ça parce qu'on ne l'a pas du tout souligné. Je crois ça très important. Ce n'est pas une expérience. Je n'ai pas l'expérience de l'être. Je regrette. L'être est intouchable. Ah, l'Inde, hein. L'être est intouchable. Alors, comme la vache représente l'être d'une manière assez massive, c'est intouchable. La vache sacrée. Oui, l'être est sacré. Il est intouchable. Il est au-delà de ce que je touche, au-delà de ce que je vois. J'ai jamais vu l'être. J'ai l'intuition que l'être est fondamental par rapport à toutes mes expériences. Et je peux, et c'est pour ça, vous voyez, que la philosophie première n'apparaît pas en premier lieu. Qu'est-ce qui apparaît en premier lieu? Philosophie de la matière. Philosophie éthique. L'homme dans sa responsabilité. L'homme dans son travail. Et c'est déjà très élaboré. Ceci est. C'est très élaboré. Méta-expérience. Bon, une fois que je comprends cela, ça nous pouvons tous le comprendre. Il faut réveiller votre intelligence, tout simplement. Alors, la philosophie première est faite pour réveiller votre intelligence. Un peu endormie depuis Descartes. Puisque depuis Descartes, on ne parle plus d'intelligence, on parle d'entendement. Cogito, cogito. Donc on est dans la méditation. Depuis Descartes, on est dans la méditation. Et c'est la perte totale de l'intelligence, et par le fait même de la contemplation. Réveiller l'intelligence associée, c'est me mettre sur une voie contemplative. C'est extraordinaire, ça. Ah, vous voyez tout de suite l'importance. Si je m'endors, je ne peux pas être un contemplatif. Je ronronne. Qui médite. Mais je ne peux pas être un contemplatif. La contemplation exige un regard profond. Et voyez, là, on voit tout de suite ce que saint Thomas aime de dire. Et je le prends tout de suite ici parce que c'est un des grands slogans de saint Thomas. Saint Thomas aime de dire, en prenant l'étymologie d'Isidore, qui n'est pas une étymologie scientifique, l'intelligence intus légère. Ça, c'est très joli. C'est pas tout à fait juste, mais c'est très joli. Oui, je comprends de ce que les modernes aiment. On aime beaucoup de faire des petits traits comme ça. Ça fait savant, ça. Alors, intus légere, c'est lire de l'intérieur. C'est très curieux qu'on retrouve là rigueur. C'est très moderne. Lire de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que le philosophe? Il lit de l'intérieur. Pourquoi? Parce que, ayant atteint la source, il regarde tout dans la source. Donc il lit de l'intérieur. C'est un bon exercice, lire de l'intérieur. On vous a appris à l'école de lire de l'extérieur. Bien maintenant, j'ai dit tout ça, c'est très bien. Mais il faut lire de l'intérieur. Alors, lire de l'intérieur, c'est chercher à trouver ce qu'il y a de plus profond, la source de tout le rejet. Et saint Thomas nous dit que le propre de l'intelligence, primo, alors je l'écris parce que ça, il faut le savoir par cœur. Je ne vous demande pas d'apprendre beaucoup de choses par cœur, mais ça, c'est axiome, vous allez vous le savoir. 175 fois dans un Thomas, 175 fois, dans toutes les œuvres, il y y a quelqu'un qui a fait une thèse là-dessus. C'est rapide comme thèse. Mais c'est fait à la grégorienne. Alors, 175 fois. C'est dommage que ça a déjà été fait. Primo, cadit. In intellectu. Es. Alors, je traduis. Ce qui tombe, cadit. Ce qui tombe en premier lieu, primo, dans l'intelligence, c'est ce qui est. Es. Es, traduisez ce qui est. C'est Saint Thomas qui dit. Es. Id. Quod. Est. Ce qui est. La première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est ce qui est. Donc, vous voyez, Saint Thomas ne dit pas. Le jugement d'existence est ce qu'il y a de premier dans ma vie intellectuelle, il le dit une fois, dans toute son œuvre. Mais il dit 175 fois, ou 178, je ne sais plus, c'est à peu près comme ça. Primo cadit in intellectus ens. Si vraiment ens, ce qui est, tombe en premier lieu dans l'intelligence, je peux dire. La première chose que l'intelligence saisit, c'est ce qui est dans un jugement d'existence. C'est pour vous montrer que là, on touche, je ne dis pas l'intuition fondamentale de Saint Thomas, mais ce que Saint Thomas a affirmé le plus dans toute son œuvre. Et il a affirmé ça le plus, cette phrase. Elle est dans Avicenne. Donc, cadit, au point de vue latin, c'est très difficile. Hein. Comme si ça tombait dans un puits. Vous savez, quand vous allez en Samarie, au puits de Jacob, on jette un petit caillou. Jonathan. On jette un petit caillou dans le puits. Puis tout d'un coup, on entend. Et là, on dit, le puits est profond. Vous faites une induction. Hein. Le puits est profond. Parce que vous avez jeté ce petit caillou, puis vous attendez le bruit. Floc, il tombe dans l'eau. Le puits est profond. Et l'intelligence, c'est un puits profond. Cadit, qu'est-ce qui tombe dans l'intelligence? Ce qui est. La couleur tombe pas dans l'intelligence. Ça s'arrête avant. Ça ne tombe pas dans l'intelligence. Le mot cadit vient de l'arabe, qui exprime justement cette capacité de recevoir. C'est cette capacité de recevoir. L'intelligence est capable de recevoir ce qui est. L'intelligence est accueillante à l'égard de ce qui est. C'est le premier accueil. Tout le reste dépendra de ça. Et viendra de là. Chaque fois que l'intelligence prononcera un jugement, primo cadit in intellectus ens sera présent. L'intelligence ne vit qu'en référence à l'être. C'est ça que ça veut dire. L'intelligence ne vit qu'en référence à l'être. L'intelligence n'est intelligence que quand elle est en référence à l'être. Ça, il faut creuser ça. Hein. Pour arriver petit à petit à saisir. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous voyez toute l'erreur de l'idéalisme. Pour Platon, qu'est-ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence? Ce n'est pas ens. C'est la forme en soi. C'est la forme en soi. À la place de ens, vous mettez la forme en soi. C'est-à-dire l'âme, qui est la première forme en soi. Ah oui, comme c'est intéressant. La première chose que l'intelligence saisit, c'est elle-même. L'âme. J'ai une âme qu'il faut sauver. Et ça se chante, donc c'est plus facile à retenir. Tandis que ens, il n'y a pas de cantique là-dessus. L'être. Mais c'est beaucoup plus facile de dire la première chose que l'intelligence saisit, c'est l'âme. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que l'âme, je l'ai intellectuellement. Vous avez saisi l'intériorité, c'est vrai. Mais l'intériorité, vous la saisissez à partir de vos connaissances. Si vous saisissez votre intériorité à partir de vos connaissances, qu'est-ce qu'il y a de premier dans vos connaissances ? Est-ce ? Oui, comment vous venez à ça ? Bon, ceci, point de départ de la métaphysique, de la philosophie première, l'éveil de l'intelligence. C'est beau de voir que ce qui est premier dans l'éveil de l'intelligence, c'est ce qu'il y a de premier en philosophie première. C'est pour ça que je peux dire que la philosophie première est contemporaine de ma vie intellectuelle. Je commence à réfléchir au niveau métaphysique, au niveau de la philosophie première, quand mon intelligence s'éveille, au-delà de l'expérience brutale, ceci est. Je réfléchis sur ce qui est, sur ceci est. Ceci est. Je peux mettre l'accent sur deux points de vue différents. Ça, c'est aussi facile à comprendre. Nom et le verbe, grammaticalement parlant. Ceci est, c'est une proposition, c'est un jugement, ceci est. Il y a un nom et un verbe. Normalement, grammaticalement parlant, un peu de grammaire, hein. Grammaticalement parlant, le verbe est ordonné au nom. Le verbe s'appuie sur le nom. Ceci est. Je travaille. C'est pas le travail qui travaille. C'est je travaille. Donc le travail, le verbe, est second. Le verbe exprime toujours une action. Donc il y a un sujet de cette action. Ça, c'est la grammaire. Si je fais donc une philosophie de la grammaire, de la parole, comme aujourd'hui, je dirais que le verbe est relatif au nom. Et qu'est-ce qui est premier ? C'est le nom. En logique, je dirais ça aussi. En logique, le verbe est attribué au nom. Ça, c'est sûr. En bonne logique, le verbe est attribué. Le nom, c'est la substance première qui n'est pas attribuée. C'est ce qui reçoit toute attribution. Donc c'est la substance première qui n'est pas attribuée. Vous voyez, donc, philosophie de la parole, la logique aussi dit ça. Si je veux comprendre ceci est dans mon jugement d'existence, je vois que ce qu'il y a d'original dans ce jugement, c'est est. C'est ça qui est original. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas le ceci. C'est pas la vache. La vache existe. J'existe. C'est ni la vache ni moi. C'est est. C'est ça qui est commun. C'est ça qui est plus fondamental. Et dépasse ceci. Or, mon intelligence veut saisir toujours la source. Oui, comme c'est curieux. Dès le point de départ de la philosophie première, je vois qu'il y a quelque chose d'inversé par rapport à la parole, par rapport à la logique. Je vois tout de suite que la logique ne pénètre pas dans la philosophie première. Ça, c'est bouleversant. Quand on a compris ça, on voit l'erreur énorme d'Occam. La métaphysique, c'est la logique. Ou dire, la métaphysique, je peux la faire à partir du langage. Non. Puisque, au point de vue du langage, qu'est-ce qui est premier ? C'est le nom. Ceci. Ceci, objet d'expérience. La vache, je la touche. Tous les ceci, vous les touchez. Tandis que, et, ah, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui, à travers le ceci, exprime quelque chose de nouveau. Si donc vous avez une philosophie de la parole, du langage, vous ne dépassez pas le ceci. À Fribourg, les étudiants avaient un cours de philosophie, de métaphysique que je leur faisais. Ils avaient un cours d'un autre professeur qui, lui, est dans la logique, la logistique. Et pour lui, il le disait toujours aux étudiants, pour lui, c'est la même chose de dire « ceci est » ou de dire « ceci ». Au point de vue logique, c'est la même chose. Alors les étudiants sont venus me trouver et m'ont dit « est-ce que vous ne pourriez pas avoir un cours commun avec lui pour montrer que le « ceci est » n'est pas « ceci ». Et on a discuté très très longtemps, impossible, impossible. On n'a jamais compris. Alors on revenait à cette parole très simple que Kant, parce que Kant a saisi ça. Sent à l'air. C'est pas la même chose de dire sent à l'air. De dire sent à l'air existe dans ma poche. Quand vous dites 100 francs, c'est très bien 100 francs. Ça signifie quelque chose 100 francs. Puis vous dites, 100 francs existent dans ma poche. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que 100 francs, ça peut exister dans la banque. C'est pas dans ma poche. Mais le gros bon sens. Et on arrive, philosophiquement parlant, à dire que c'est la même chose, ceci est et ceci. Vous voyez la mort de l'intelligence. C'est pas la mort de Dieu, mais c'est la mort de l'intelligence. Si je dis ça, j'éteins pour toute ma vie mon intelligence. Et je resterai dans un positivisme. N'existe, ne m'intéresse que ce que je touche, que ce que je mesure, ceci. La philosophie du langage, c'est le dernier moment du positivisme. C'est le positivisme qui s'introduit en philosophie et qui tue l'intelligence. Je voudrais que vous compreniez ça. Une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus être positiviste. Alors le positivisme, vous savez bien ce que c'est, hein ? C'est dire que seul ce que je peux mesurer est intelligible. Seul ce que je peux atteindre directement par mes sensations expérimentées est intelligible. Non, il y a quelque chose de plus. Ceci est. Mon intelligence est capable d'affirmer que ceci est. Donc, c'est très important de comprendre ça, ce double mouvement. Quand je dis ceci est, je peux dire le verbe être est relatif à ceci. Ou au contraire, ah, je suis capable de regarder et pour lui-même. Et mon intelligence, regardant et le verbe, pour lui-même, va interroger qu'est-ce l'être. Je peux, l'intelligence peut donner à et le présent du verbe être un sort unique, le séparer du ceci. Lise le distinguer, pas le séparer. Le distinguer du ceci. Et dire, je veux regarder ceci. Et pour lui-même, à ce moment, j'interroge. Alors vous voyez comment l'intuition de Raïssa permet l'interrogation. Alors là, je suis tout à fait d'accord. L'intuition. C'est pas l'intuition de l'être. C'est l'intuition du rapport. C'est l'intuition de l'œcuménisme de l'être. Voilà ce qu'on devrait dire. Alors l'intuition de l'œcuménisme de l'être, c'est pas l'être. L'être, il est partout. Cette table existe. Ça, ça existe. Le café qui m'attend, il existe. Le pain existe. tout ça, ça existe. Alors je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Ce qui fait la trame sous-jacente à toutes mes expériences. Même mes expériences internes. J'ai eu un rêve cette